Partir à deux en amoureux, fuguer quelques heures ou plusieurs jours, souffrir une parenthèse durant laquelle notre seule préoccupation sera de nous aimer, vous le savez, c'est pour nous une clé d'amour durable. C'est pour cela que nous avons à cœur aujourd'hui de vous parler de Nomad Aventure, le voyagiste de l'aventure. Il est rare que vous puissiez vous offrir des vacances à deux, alors vous voulez qu'elles soient parfaites et comme l'on vous comprend. Cela signifie de trouver le savant dosage entre les découvertes humaines, les paysages époustouflants, les ambiances romantiques, les rencontres inattendues, tout ce qui vous permettra de vous créer des souvenirs uniques. Vous pouvez bien évidemment vous lancer seul dans l'organisation de ce voyage. Mais si l'idée est tout de même d'alléger votre charge mentale et de ne prendre aucun risque, on ne peut que vous conseiller d'imaginer le programme de votre échappée avec Nomad Aventure. Leur équipe de passionnés aura à cœur de vous concocter un itinéraire sur mesure. Les bords de Loire à vélo, l'ascension du Kilimandjaro, la traversée de Bali en scooter, ou encore la croisière dans les Cyclades ou la chevauchée en Mongolie. Croyez-nous, le plus compliqué sera de choisir l'aventure faite pour vous, pour votre couple ou votre famille. L'idée vous tente? Alors contactez l'équipe de Nomad Aventure de notre part et une bouteille de champagne vous sera offerte pour tout voyage sur mesure réservé avant le 30 juin. Merci Nomad Aventure. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soazic Castelnérac, créatrice du concept Save Your Love Date.
Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. C'est un couple que nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui à notre micro, Marie-Alix et Alexandre. Avec nous, ils viennent parler de cette vie au rythme atypique qu'elle a leur. En effet, Alexandre est engagé dans l'armée depuis leur mariage, il y a 18 ans. Ils ont eu depuis 5 enfants et ont déménagé 11 fois, en France comme à l'étranger. Comment maintenir sa vie de couple à flot lorsqu'elle est entrecoupée de missions et de déménagements, missions et déménagements qui s'accompagnent bien souvent d'une part d'inconnus, de questionnement et de remise en question. Quelles peuvent être les clés d'épanouissement du couple soumis à des changements et à des absences si régulières? Parce que nous savons que vous êtes nombreux à être concernés par ces questions, nous sommes heureux d'y réfléchir avec vous dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Alors aujourd'hui, nous allons voyager puisque nous allons nous connecter avec Marie-Alix et Alexandre qui sont à la Réunion. Donc ne quittez pas, on se connecte et nous voilà partis pour la Réunion. Bonjour Marie-Alix, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Soazic.
Alors je suis ravie de vous accueillir sur notre podcast. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis toute seule puisque Marie-Lise est en vacances, justement à La Réunion, mais elle n'a pas pu vous rejoindre. Mais voilà, je suis très heureuse de passer cette demi-heure, ces 45 minutes avec vous deux autour d'un sujet qui m'est cher et puis qui est d'actualité pour Save Your Love Date. C'est le sujet de comment rester un couple épanoui lorsque l'un des deux et militaire, et notamment lorsque on est soumis à un rythme, alors soit de départ et de retour de mission, soit de déménagement très fréquent. Je crois que c'est vraiment quelque chose que vous avez connu, que vous connaissez encore tous les deux. Merci d'avoir accepté de venir en parler au micro d'Au cœur du couple. Alors, est-ce que pour commencer cet épisode, et puis pour que ceux qui ne vous connaissent pas encore fassent connaissance avec vous, vous voulez bien vous présenter? Il y a quelque chose que l'on fait, nous, une tradition sur Au cœur du couple quand on reçoit un couple, c'est qu'on fait une présentation croisée, c'est-à-dire que Marie-Alix, tu vas nous présenter Alexandre, et puis Alexandre, tu auras le plaisir de nous présenter Marie-Alix.
Alors, donc Alexandre est mon mari depuis maintenant plus de 18 ans. Nous avons ensemble 5 enfants qui ont entre 7 ans et 16 ans, 4 garçons et une fille. Et nous avons une vie un petit peu particulière justement par la profession d'Alexandre parce que il est militaire et que de par son métier, nous sommes amenés à déménager très régulièrement. Et nous avons aussi vécu deux missions de longue durée de plusieurs mois où lui partait en mission seul et moi, je gérais la maison et les enfants et dont un accouchement en mission aussi toute seule.
Merci Marie-Alix. Alors, est-ce que tu veux bien, pour qu'on aille un peu plus loin dans la connaissance de ton homme, nous parler un petit peu de qui il est, de son caractère, de son tempérament, peut-être quelques qualités, un petit défaut éventuellement?
Alors Alex, pour moi, outre évidemment que c'est l'homme parfait... ou presque à peu de choses près. Il est en fait c'est le ce que j'aime bien chez lui justement c'est contre enfin c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire mais j'aime bien son côté militaire dans le sens où sa profession est un petit peu présente à la maison dans le sens où c'est quelqu'un qui est assez droit, qui est assez juste, qui est efficace, qui aime le goût de l'effort, qui va au bout de lui-même. Quand il décide quelque chose, il y va jusqu'au bout. Enfin voilà. Et en fait, tout ça, je pense qu'il a acquis en grande partie aussi grâce à sa carrière militaire. Et au quotidien, c'est aussi hyper agréable de l'avoir comme ça. C'est un super papa, en plus d'être un super mari. Il est très présent pour les enfants autant qu'il peut en fonction du temps qu'il lui reste après son boulot. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un père investi et j'aime bien avoir cette image du père investi dans notre foyer. Et sinon, ça reste un homme qui a besoin, je pense, comme beaucoup d'hommes, d'un espace un peu de liberté régulièrement, aller faire son sport tout seul, aller faire ses sports nautiques tout seul, il adore ça, ses sports de glisse. Voilà, donc en début de mariage, c'est un petit peu compliqué de le comprendre, et puis au fur et à mesure, on se dit, bon bah, s'il part 2 heures et qu'il revient de bonne humeur et amoureux, pourquoi pas, on le laisse faire, quoi.
Alors c'est drôle que tu dises cela, parce qu'on a fait un épisode sur le sujet, dans « Cœur du couple », qu'on avait intitulé « La place des loisirs ». Dans le couple. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais pour ceux que le sujet intéresserait, allez regarder, c'est dans les épisodes assez récents. Merci Marie-Alix, en tout cas, pour cette belle mise en valeur de ton homme, qui, du coup, Alexandre, te met un petit peu la pression, puisque, voilà, maintenant, il va falloir faire aussi bien pour Marie-Alix.
Vraiment, et je te remercie d'avoir commencé, chérie, parce que je trouve que l'exercice n'est pas évident. Moi, je vais repartir un peu peut-être de la genèse de notre histoire. Moi, quand j'ai rencontré Marie-Alix, elle était encore étudiante. Elle savait pas trop vers quoi elle allait, et en fait, sa personnalité m'a beaucoup plu. On s'est rencontrés, et on s'est un peu cherché au départ, et on s'est mariés. Voilà, enfin, elle l'a dit, on a 5 enfants aujourd'hui. Marie-Alix, en fait, au départ, était comme beaucoup de filles, ne souhaitait pas épouser un militaire. Et du coup, ça nous a forcé à beaucoup réfléchir à ce qu'on voulait dans la vie, à beaucoup discuter. Et en fait, moi, je suis hyper attaché aux discussions profondes. Et c'est vraiment quelque chose qui me lie avec Marie-Alix. Et je pense qu'on a énormément progressé en plus depuis le début de notre mariage. Pour mieux se comprendre, mieux s'écouter, Marie-Alix vient d'une famille dont les parents se sont séparés aussi. Et du coup, ça nous a aussi beaucoup aiguillé dans nos choix de couple et dans les erreurs qu'on ne voulait pas commettre et comment est-ce qu'on voulait construire notre couple. Et donc après, elle a toujours été là dans les moments difficiles, les moments sympas aussi, bien sûr. Et en fait, toutes ces épreuves qu'on a surmontées à deux, je pense que ça nous a rendu plus forts. Il y en a eu beaucoup et je pense que c'est pas fini. J'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même. Voilà. Après, si je devais la décrire en quelques mots, bon, le premier qui me vient à l'esprit, et c'est évident pour tout le monde, c'est que c'est une fille hyper organisée. J'irais presque une maniaque de l'organisation, mais ça me plaît bien parce que du coup, voilà, on sait vers quoi on va et c'est un vrai appui. Et puis on sait que derrière ça roule. Le gros défi avec Marie-Alix, c'est justement de l'obliger à lâcher prise et de pas se laisser porter par toute son organisation, puisque ce serait un peu facile, mais du coup, il y aurait plus de place pour la surprise.
Alors moi, ce qui me vient à l'esprit là, si je croise les deux présentations que vous avez faites, c'est que vous avez quand même ce trait commun d'être très organisé, a priori, avec un esprit, en tout cas pour Alexandre, très carré, qu'on ressent certainement aussi chez toi, Marie-Alix. Comment ça se met en place, ça, dans votre quotidien?
En fait, là-dessus, clairement, on fait équipe. Il n'y a pas de... Et en fait, on le voit, il y a des moments où on passe vraiment en mode équipe.
On va en reparler après, mais quand on déménage, quand on apprend où on part et à quelle date, notre couple bascule en team. et on est en mode voilà, toi tu fais, on en reparlera après dans les détails, mais vraiment on...
En fait, la répartition des tâches se fait très naturellement, et du coup on a presque plus besoin de se parler et on est vraiment juste dans l'efficacité. Alors c'est chouette, mais le risque, enfin c'est chouette parce qu'en termes d'efficacité ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus des moments qui font rêver, quoi, parce que on n'est pas une entreprise, on est un couple, quoi.
Alors je suis obligée de rebondir sur cette notion de faire équipe, parce que nous c'est vraiment, avec Marie-Lise, on en parle souvent. C'est d'ailleurs une des clés, une des 5 clés que l'on a décrites et que l'on a choisies pour notre livre Les 5 clés de l'amour durable. Vraiment, on trouve que ce concept, qui est bien plus souvent appliqué au sport ou au monde de l'entreprise, quand il est mis au cœur de son couple, il crée vraiment, je trouve, dans le couple, une sorte on est tous les deux contre le reste du monde, il pourra rien nous arriver. Et quand on a un problème, quand on a un projet, quand on a quelque chose à résoudre, quand on a quelque chose à organiser, vous le dites vous-même, un déménagement, eh bien voilà, on est l'un avec l'autre. On met nos compétences, on met nos talents en commun et c'est parti en fait, rien ne pourra nous arriver. C'est quelque chose qui peut être très présent, une notion qui peut être très présente sans qu'on en ait vraiment conscience en début de relation, être l'un avec l'autre. Et puis c'est vrai que parfois, on le constate avec le temps, on a plus tendance à devenir, à être l'un contre l'autre. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je trouve que de pouvoir se le redire régulièrement, quand on prépare un projet, quand on met quelque chose en place, quand on a une problématique à résoudre, se dire, bah, attends, là, en fait, on va faire équipe pour être efficace et pour marcher l'un avec l'autre vers notre objectif.
Et je pense qu'une des raisons, c'est notamment que ça t'oblige à regarder les qualités de ton conjoint. Et tu vois, de reconnaître ses forces, reconnaître aussi ses faiblesses, pouvoir en parler et du coup prendre le relais là où l'autre a des difficultés. Et voilà, là où moi je vais aller porter ce qui est lourd, Marix va organiser ce qu'il y a à l'intérieur des valises, par exemple. Et voilà. Et ça fonctionne super bien, mais parce qu'on se connaît, quoi. Même si aujourd'hui elle est capable de porter les valises.
Merci vraiment d'avoir reparlé de cette notion parce que, enfin, il y a rien, moi, qui me fait plus plaisir quand j'entends des couples qui parlent de leur quotidien, de leur façon de faire et qui reprennent justement des clés qu'on a pu mettre en avant. Ça veut dire que c'est vraiment quelque part qu'elles sont pertinentes, tu vois, donc merci beaucoup. Marie-Alix, je me tourne vers toi maintenant. Donc, évidemment, quand tu as épousé Alexandre, tu savais qu'il était militaire, mais est-ce que vous aviez une idée tous les deux de ce que serait son parcours, sa carrière? Est-ce que tu avais conscience de ce qui t'attendait, notamment dans le rythme que ça allait exiger pour vous et qu'on allait vous imposer?
Alors, on savait en tout cas moi, à titre perso, je savais que je m'engageais dans une vie de couple un petit peu particulière et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Néanmoins, en fait, alors on s'est posé beaucoup de questions sur cette vie qui nous attendait, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est compliqué d'en saisir toutes les nuances, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Voilà, en fonction de l'avenue des enfants, en fonction des mutations, en fonction des missions, en fonction des coups de mou aussi qu'on a l'un et l'autre qui arrivent, évidemment, en fonction de la non-proximité de nos familles respectives aussi, qui sont du coup en général très loin de nous, donc on ne peut miser que sur nous-mêmes finalement pour gérer tous ces soucis. Enfin voilà, plein de choses qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, en fait, quand certaines personnes nous disent, à des moments un petit peu plus compliqués de notre vie, nous disent « Non, mais tu savais quand tu l'avais épousé ?» Oui, en fait, je savais qu'il était militaire, mais je ne connaissais pas tous les détails, tous les tenants et aboutissants, même si ça n'aurait rien changé à ma décision, parce que je l'ai déjà dit, j'aime Alexandre pour qui il est, et il y a une partie de lui qui est militaire. Donc, en fait, j'aime cette partie de lui, évidemment, qui fait partie de son intégralité, mais oui, c'est cette phrase de « tu le savais », en fait, ça n'aurait rien changé à ma vie. Et ça n'empêche que c'est pas tous les jours facile non plus. C'est comme si on disait à une femme de médecin urgentiste, non mais tu le savais quand tu l'as épousée. Oui, mais ça n'empêche que cette femme aussi doit vivre des moments compliqués parce que son mari est très pris, qu'il a une profession particulière, etc. Mais voilà.
Et même pour aller encore, tu vois, un petit peu plus loin, je trouve que, donc on peut entendre, mais tu le savais, je trouve que souvent on entend aussi, tu l'as choisi. C'était ton choix, donc voilà, tu peux pas venir te plaindre en fait de cette mutation qui ne te plaît pas, de cette ville où on te demande d'aller qui ne te va pas, de cette mission pour laquelle il va partir. Voilà, tu le savais et tu as fait ton choix quand tu l'as épousé en connaissance de cause. Et je trouve ça, c'est pas facile toujours à entendre et à justifier parce que ça nous met dans une position où on ne peut pas, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas subir, on doit juste accepter. Et ça, je trouve que c'est pas toujours facile en fonction des circonstances que l'on a à vivre.
J'aimerais revenir juste, Oisic, moi aussi, pour te donner un peu ma version de la réponse à la première question. Ni Merlix ni moi ne venons d'une famille militaire. Ça veut dire que les modèles qu'on a, alors ça peut être des grands-oncles ou des grandes-tantes, en fait, c'est peut-être des histoires qu'on a entendues sur leur déménagement, mais c'est jamais quelque chose qu'on a vécu chacun dans notre vie.
Et pour autant, on a beaucoup déménagé, tous les deux étant jeunes.
C'est ça. Et en fait, on a beaucoup déménagé étant jeunes, mais sans être en charge du déménagement. Sans mesurer, en fait, tout ce que les parents ont pris sur eux en termes d'incertitude, de doute par rapport aux choix scolaires, aux inscriptions scolaires. Est-ce que on va pouvoir inscrire les enfants à droite, à gauche? Est-ce qu'on va trouver une maison qui convient? Voilà. Tout ça, en fait, on l'avait pas vécu. Et je pense que, en fait, enfin, il y a pas d'école, d'école d'épouse de militaires, ou alors c'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Et pour ça, je trouve que la préparation au mariage, enfin, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a, comme je disais tout à l'heure, sur lequel on a beaucoup discuté. On s'est rencontrés. Moi, j'étais déjà en école. J'étais à Saint-Cyr à ce moment-là. Marie-Lix était encore étudiante. Moi, j'étais en train de réaliser mon rêve. Mais enfin, le rêve, il s'arrête pas à Saint-Cyr. Il continue après. Et je voulais être sûr de pas le vivre qu'à moitié. Donc, je me disais au départ, c'est ensemble dans cette voie-là ou tout seul. Mais je voulais vraiment le vivre. Mais ça veut dire que quand même, parce que quand même, Marie-Lix m'intéressait beaucoup. On en a beaucoup discuté. Je me souviens qu'on avait participé à une conférence de chrétiens en grande école militaire, où en fait on n'avait pu pas discuter de ça, en fait, la vie d'épouse de militaire, de famille de militaire. Et c'était assez, c'était intéressant de se construire comme ça. Et après, dans les choix qu'on a fait, par exemple, moi j'ai choisi une arme particulière qui est celle des troupes de marine, dans laquelle on est appelé à servir en outre-mer ou à l'étranger. Et du coup, ça, c'est un choix que j'ai fait en connaissance, enfin, ou en conscience, en tout cas, après en avoir parlé avec Marie-Lix, en lui disant, si je choisis ça, ça veut dire qu'il y a cette contrainte-là, ou cet avantage-là qui ira avec. Mais voilà, derrière, il faut qu'on peut mesurer une partie des effets, mais il y a toujours des effets de bord, de toute façon.
Mais on en a toujours beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'il y a jamais rien qui a été imposé à l'un et à l'autre, en fait. Je trouve que c'est très important dans ce genre de chemin de vie, de toujours essayer d'accorder nos violons pour que ça se passe le plus harmonieusement possible. Et pour la petite anecdote, moi j'avais toujours dit je n'épouserai jamais un militaire et jamais un agriculteur. Bah c'est raté.
Après, je pense que ce qui est important quand on fait ce genre de choix, c'est qu'il n'y en ait pas un dans le couple qui se sente lésé. Il faudrait pas que elle ait remis complètement ses choix de carrière ou ses choix de vie en question. Ou alors, si elle le fait, que ce soit assumé, mais que le mari l'entende et comprenne aussi la souffrance qu'il y a avec, pour pouvoir lui adapter aussi ses choix professionnels.
Alors là, ce que tu me dis, c'est parfait, parce que c'est un thème que je voulais aborder avec vous, et plus particulièrement avec toi, Marie-Alix. Professionnellement, comment est-ce que tu t'es adaptée pour maintenir ton activité pro? Est-ce que ça a été un sujet dans votre couple, dans votre organisation? Est-ce que ce rythme de vie que vous avez eu, très découpé, si je peux dire ça. Est-ce que ça a été pour toi, ça peut être pour toi un frein dans la réalisation de tes projets, réalisation que ce soit professionnelle, que ce soit familiale, que ce soit sociale? Est-ce que tu as pu vivre cela parfois, te sentir frustré, en tout cas? Et si oui, comment est-ce que tous les deux vous avez fait pour passer outre et que ce soit pas quelque chose qui vienne impacter négativement votre quotidien et votre vie de couple?
Alors au départ, pas du tout, parce que je suis pas du tout, j'ai pas fait des grandes études, je suis pas carriériste, je ne m'engageais pas dans un truc extraordinaire, donc au départ je peux pas dire que ça me pesait. Et puis les 10 premières années de notre mariage, il y a eu un été un déménagement, un été un accouchement, un été un déménagement, un été un accouchement. Donc en fait, la vie a été ponctuée d'événements tels que des grossesses, des accouchements et des mutations. Et du coup, de fait, c'était matériellement pas possible. Beaucoup de travail pour Alexandre, des absences, du terrain, des missions. Enfin, donc en fait, pas possible. En revanche, quand notre dernier enfant, notre cinquième, est rentré à l'école, on revenait de l'étranger et on est arrivé sur Paris. Et là, je me suis dit, je suis prête et j'ai envie de faire autre chose que la maison, les enfants, les devoirs, etc. Bon, j'ai jamais été inactive pour autant, mais je voulais faire quelque chose vraiment pour moi, pour ma confiance en moi, etc. Je me suis sentie prête à le faire, sauf que j'étais un petit peu démunie de me dire, alors comment je vais pouvoir trouver quelqu'un qui veut m'embaucher en sachant que ça fait 12 ans que je n'ai rien fait. Et c'est là où, pour le coup, Alexandre a été super, parce qu'il m'a dit, arrête de te dévaloriser, arrête de dire que tu ne vaux rien, En fait, tu vaux peut-être même plus que d'autres personnes qui sont sur le marché du travail, dans le sens où tu as déménagé 10 fois, tu organises une vie de famille de 5 enfants, tu es, t'as une adaptabilité super, t'es très sociable, t'es hyper organisé. Enfin, je veux dire, et donc il m'a aidé à faire un CV qui était valable sur le marché du travail en mettant en avant toutes ces compétences en fait acquises par une vie autre que professionnelle. Et ça a très bien marché et très vite, et j'ai trouvé un boulot à Paris qui convenait exactement à ce que je voulais et à ce que je suis, et je me suis éclatée pendant 3 ans, vraiment. C'était compatible avec ma vie de famille, c'était parfait par rapport à mes attentes et ce que je voulais et qui j'étais. Mais voilà, donc j'ai pu bosser pendant 3 ans, et en fait j'ai trouvé ça à titre personnel très très gratifiant, parce que ça a équilibré un peu ces 3 fois 7 femmes, mères et épouses. Et en fait, c'est vrai que par la vie qu'on a, il y a peut-être le côté femme que j'avais un petit peu mis de côté, même si j'ai toujours pris soin de moi, etc. Mais le côté épanouissement personnel, vraiment, parce que c'était compliqué de le vivre. Et là, j'ai vraiment vécu ça pendant 3 ans et j'ai trouvé ça top. Et j'ai trouvé ça tellement top que redéménager au bout de 3 ans et requitter ce boulot, ça m'a vraiment, vraiment coûté.
Et justement, gérer l'annonce de la mutation, qui était en plus pas la plus simple puisque c'était la Réunion, donc ça voulait dire de l'outre-mer. Comment t'as pris l'annonce ? Parce que tu t'es bien douté qu'effectivement ça voulait dire quitter l'emploi que tu avais trouvé. Est-ce que ça a été compliqué pour toi ?
Si, ça a été compliqué. Et en fait, je suis arrivée ici en me disant « mais je vais retravailler, c'est super, j'ai de l'expérience, etc. » machin. Et puis surtout, j'ai pris sur moi, parce que moi, au départ, j'ai apparemment confiance, donc j'étais dans les petits souliers, etc. Et puis Alexandre m'a dit au bout d'un an, « Mais Chérie, t'as pensé à aller gratter une petite augmentation, là, comme tout le monde fait en entreprise ?»« Bah non, en fait, t'es sûre ?»« Mais bien sûr, vas-y, fais-le !» Alors, il m'a coaché, machin, là, là. J'y suis allée, je l'ai eu, j'ai dit, bah, « Trop bien, cool !» Et c'est des petites victoires comme ça qui sont vraiment trop bien. Je suis passée d'employée à cadre aussi. Enfin, je veux dire, c'est tellement gratifiant, ça fait vraiment du bien que voilà, j'ai vraiment passé 3 années super. Et puis, on s'organise différemment au niveau de la maison parce que, bien évidemment, on est moins présent. Mais voilà, c'est pas grave, on vit autre chose. Et là, en arrivant donc sur l'île de La Réunion, je pensais pouvoir travailler. Et en fait, pour mille et une raisons d'organisation, d'horaire d'école, etc., c'est quasi impossible. Donc, mais j'ai mis de longs mois à accepter que ce ne serait pas possible. Et ça a été vraiment difficile.
Alors là, on arrive au cœur d'un sujet, je pense, qui concerne beaucoup de conjoints de militaires, sur cette déception qu'on peut avoir de ne pas réussir à retrouver, en tout cas de suite, un poste, ou alors même un poste qui correspondait à celui qu'on avait avant. Comment est-ce que vous avez géré, justement, vous, tous les deux, cette frustration que toi, Marie-Alix, tu as pu ressentir en arrivant à La Réunion ?
Bah, on en a énormément parlé, ça c'est sûr, et en fait j'ai un mari qui est à l'écoute. Il y a peut-être des maris qui écoutent pas trop ce genre de choses de leur épouse en disant écoute, ça va, je t'ai ramené sur une île vachement sympa pendant 2 ans, profite de ces 2 années pour ne pas travailler. Alors moi j'en connais aussi des épouses ici de La Réunion qui elles pour le coup ont bossé comme des folles pendant 15 ans et qui sont ravies de se poser pendant 2 ans. Elles prennent 2 ans vraiment de pause parce qu'elles en avaient besoin et c'est super aussi de le vivre comme ça. Sauf que moi, là, tout de suite, maintenant, j'avais pas envie de ça. En fait, j'avais envie de continuer dans ce mouvement de reprise en confiance en moi, etc. Et donc, on en a énormément parlé. Ça a été entendu et accueilli par Alexandre qui, malgré tout, ne pouvait rien y changer. Notre vie était ainsi. Et en fait, il n'y a pas eu forcément c'est pas le temps qui a fait que ça a été accepté. C'est juste moi. Un jour, vraiment, je me suis réveillée en disant, en fait, ça suffit la loose. Arrête. En fait, ta vie est comme ça et tu ne pourras rien y changer. Et je l'ai dit à Alexandre, je dis, en fait, faut qu'on arrête parce qu'on est en train de se, parce qu'il y avait aussi d'autres choses, hein, qui nous pesaient ici. On s'est dit, arrête, en fait, ça sert à rien de se morfondre. On est là. Il y a aussi des trucs super qui sont ici. C'est une île canon. Il y a plein de choses à faire. On est en famille, etc. On n'a pas de gros soucis dans la vie. Donc, on met off le bouton de la loose. Et c'est comme ça qu'on a réussi à switcher en couple et en famille. Hein. Tout le monde, on a embarqué tout le monde.
Et toi, Alexandre, quand tu vois Marie-Alix qui est dans cette position, qu'elle cherche un travail, mais que finalement, vous vous rendez compte assez rapidement que finalement, ce ne sera pas possible, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu ressens de la culpabilité ? Est-ce que tu t'en veux de l'avoir mise par ce déménagement, par cette mutation qui n'est pas évidemment que de ton fait, de la mettre dans cette situation ?
Oui, il y a une culpabilité, Sozy, parce que Parce qu'en fait, on a toujours beaucoup discuté sur tout ça. Avant, il n'y avait pas de difficulté dans la mesure où elle n'avait pas l'envie de travailler. Donc, c'était toujours, on allait vers une nouveauté. Et puis, c'est toujours un peu l'aventure, quoi. Donc, en route vers l'aventure, on va rencontrer de nouvelles personnes, se faire une nouvelle vie ailleurs et s'engager différemment. Et donc, ça, c'était vraiment intéressant, vraiment sympa. Et là, pour la première fois, j'ai senti le déchirement que c'était. Et pas uniquement en termes d'amitié qui risquait de se distendre ou quoi que ce soit, mais vraiment en termes d'épanouissement personnel et professionnel. Et ça, c'était dur parce que du coup, on se dit est-ce qu'on est vraiment dans le match? Est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment bien? Et du coup, on revoit dans la balance ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on gagne en venant ici, qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que mon épanouissement personnel dans mon travail justifie le qu'elle remette tout en question. Voilà, c'est des vraies questions auxquelles, chaque couple trouve ses réponses. Mais oui, effectivement, ça fait un grand moment de doute.
Et je trouve qu'il y a des moments de vie, en fait. Enfin, on ne vit pas les choses pareilles quand on a 25 ans, pas d'enfants, ou quand on en a 40 et qu'on en a 5, on a des ados, des pré-ados. Voilà, la vie évolue. Je pense que quand j'avais 25 ans, j'étais prête à, enfin tous les deux, hein, à dire on part en Afrique, allez c'est parti, on fait les cartons, les machins, on se délaisse de beaucoup de choses, c'est pas grave, on vivait vraiment dans la vie est une aventure, fonce quoi. Et alors on est toujours comme ça parce que on pourrait pas pour autant aller se mettre 20 ans au même endroit, ça fait pas partie de notre caractère. Mais c'est vrai que on évolue chacun personnellement, le couple, la famille, les enfants, et qu'il faut essayer de voilà mettre tous les curseurs le mieux possible pour que ce soit en harmonie pour tout le monde. Et c'est vrai que dans des vies comme ça qui sont particulières, c'est parfois pas évident.
Je voudrais juste venir appuyer ce que tu as dit quand tu dis, en fait, on change, on ne réagit pas, on n'accueille pas les choses de la même façon quand on a 25 ans et qu'on n'a pas d'enfants que quand on en a 32 et qu'on a des enfants en bas âge ou quand on en a 45 et qu'on a des plus grands. Effectivement, chaque mutation qui nous a annoncé ou chaque mission qui va avoir lieu, on le vit différemment. Et je pense que c'est vraiment important de se le redire à chaque fois dans son couple, de ne pas penser que telle ou telle situation c'est acquis. En fait, se dire elle a jamais été carriériste, elle a jamais voulu travailler, elle n'a jamais exprimé le besoin. Ça sera toujours ainsi et on se posera jamais trop la question de savoir si demain elle veut prendre un emploi. Non, en fait, on a le droit heureusement de changer et c'est important de se le redire très régulièrement. En fait, où est-ce que t'en es aujourd'hui? Est-ce que par exemple, on fait régulièrement dans l'armée, même tous les ans, des choix de mutation sur les postes que le conjoint militaire il veut postuler. Ça, c'est pouvoir, je trouve, à chaque fois, le faire à deux, ces choix-là. Je trouve que c'est vraiment important. Moi, je connais des couples où le conjoint, souvent les femmes, ne savent pas vraiment ce que l'autre a mis. Peut-être en choix 1, mais en choix 2, en choix 3, elles ne sont pas au courant, puis elles n'ont pas trop eu leur mot à dire. Je trouve que c'est essentiel qu'il y ait une vraie discussion sur ce sujet. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, on était OK pour partir en Outre-mer et que finalement, 5 ans après, les choses ont changé, le contexte n'est plus le même, eh bien, on n'en a plus envie. Donc, c'est important de pouvoir se le redire qu'il y en a peut-être un qui a toujours envie d'ailleurs et l'autre non, vraiment. Donc, je trouve que ça, c'est un conseil qu'on peut donner. Petite parenthèse, mais au couple dans lequel l'un est militaire, à chaque fois que vous avez vos choix de poste à faire tous les ans, c'est d'en discuter ensemble, de vraiment vous mettre d'accord. C'est l'occasion de se redire, voilà, là où on en est et quelles sont à chacun nos envies et nos ambitions pour la suite.
Je suis 100% en phase avec toi, Soizig, mais je pense qu'il y a un point aussi qui est important, c'est que la femme ou en tout cas le conjoint qui subit soit capable d'exprimer ça, parce que peut-être que l'autre est trop pris dans son travail et du coup ne voit pas. Et si l'autre se dit « non mais je dis rien parce que c'est important, c'est sa carrière, et je veux pas le gêner ou je veux pas le freiner d'une façon ou d'une autre », et en fait c'est là que naît la frustration et que naît en fait une vraie divergence de point de vue qui au départ est toute petite, mais en fait alimente une énorme frustration et qui à la fin explosera au grand jour.
Et on voit bien qu'une fois encore, la clé, ça va vraiment être le dialogue, la communication, se poser pour en parler, se livrer, oser dire les choses, se mettre dans un contexte où on va pouvoir à la fois être à l'aise pour s'ouvrir à l'autre, pour lui dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et puis dans une attitude aussi d'écoute de ce que vit l'autre, pour pouvoir le rejoindre.
Les hommes, on est très mauvais pour ça. Field, ça marche super bien pour pour l'avoir, ce dialogue en vérité.
Merci Alexandre pour ce petit instant promotion de Save Your Love Date. Je précise que ce n'était pas calculé et que ce n'était pas anticipé. Donc merci beaucoup. Petite question. Donc on l'a vu, hein, c'est un rythme de vie qui n'est pas toujours évident. Mais est-ce que vous pourriez nous dire tous les deux, pour vous, quels ont été les bienfaits d'un tel rythme pour vous-même, pour votre couple et puis pour votre famille?
Moi, c'est ce que je dis à Alexandre, c'est que le jour où on sera à la retraite ou le jour où on sera en maison de retraite tous les deux, si on se retourne sur notre vie, on se dira waouh, en fait, on en a eu qu'une, mais alors qu'est-ce qu'on l'a rentabilisé et qu'est-ce qu'on en a profité, quoi. Ça, c'est vraiment c'est une chance parce que c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de fatigue morale, physique, etc. Tout ce qu'on veut, c'est déménagement, mais il faut quand même reconnaître une chose, voire même deux choses. La première, c'est que ça nous sort de notre zone de confort, ça nous met un espèce d'énorme coup de pied aux fesses en disant ok, alors maintenant, en fait, tu vas changer de vie, tu vas quasi recommencer à zéro. Mais en fait, tu vas aussi croquer la vie, le temps qui t'est donné dans cette mutation. Donc ça, c'est toujours ce qu'on a essayé de faire. Surtout qu'on est parti 3 fois en dehors de métropole. Donc c'est vrai que c'est quand même des expériences très enrichissantes. Familialement, ça soude énormément. En tous les cas, nous, on l'a vécu comme ça. Surtout quand on est parti en dehors de métropole parce que on n'a plus la famille élargie. On n'a plus les amis habituels de longue date. Donc en fait, notre famille réduite devient un espèce de noyau central indispensable. Et puis on vit des aventures exceptionnelles avec nos enfants qui ont vécu des trucs incroyables. Enfin, on a des albums photos archi garnis, c'est vraiment super sympa. Et l'autre avantage aussi qu'on y voit, c'est que ça oblige à chaque mutation à se reposer la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie et quelles sont mes priorités dans la vie. C'est-à-dire, voilà, on avait choisi telles écoles pour nos enfants. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour eux? Est-ce que ça correspond à chacun de nos enfants? Est-ce que ce serait pas l'occasion de voir autre chose? Est-ce que ce serait... Enfin, en fait, on repose un peu à chaque fois tous les points importants de notre vie. Et alors que, si on est installé 15-20 ans dans la même ville, même quartier, même maison, en fait, on a peut-être moins le courage de faire, et je comprends carrément que ce sera plus compliqué, de reprendre toutes les cartes, on bat toutes les cartes et on les redistribue différemment. Je pense que c'est plus compliqué. Et les déménagements, c'est quand même ça comme avantage.
Après, alors je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Marix, notamment sur le fait de reposer des choix. On a effectivement, moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est de découvrir de nouvelles personnes, et notamment lorsqu'on est à l'étranger, d'une façon complètement différente, où les personnes qu'on rencontre quand on est là-bas, comme il n'y a plus la famille, comme il n'y a plus les mêmes codes culturels, en fait on découvre vraiment la réalité de ces personnes, il n'y a plus de masque en fait. Et ça, j'ai trouvé ça génial, c'est vraiment des super découvertes, et on s'est fait des très bons amis comme ça, et c'était vraiment très chouette. Et de la même façon, quand on revient après, ou quand on revient dans une garnison en métropole, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'entre-soi. Et les gens restent dans leur milieu qui est confortable, vont pas trop voir à côté. Voilà, on est tous dans la même école, on se voit tous au même endroit le week-end, etc. Voilà, et ben le fait de partir, quand on revient, on étouffe un peu là-dedans. On se dit en fait, moi je veux quelque chose de beaucoup plus large et je veux pas rester dans cet endroit un peu finalement un peu confiné quoi. Donc ça c'est vraiment c'est un cadeau hein, du milieu militaire pour nous quoi. C'est vraiment chouette.
Et est-ce que vous diriez que c'est un rythme qui parfois a pu mettre votre équilibre de couple, votre complicité, votre harmonie en danger?
Alors moi je dirais que on s'est jamais senti en danger. Mais on a senti les moments où on se disait là c'est trop, là on n'est pas prêt à faire le pas, et ça nous est arrivé une fois de refuser une mutation parce que en fait ça correspondait pas du tout à nos besoins familiaux. Et en fait le fait d'en avoir parlé ensemble, d'avoir pesé le choix, c'est un choix qui était assumé. Mais en fait c'était la première fois que ça m'arrivait. Et dans l'armée, ça se fait pas normalement. Enfin, on ne refuse pas un poste. Bon, finalement, on a eu de la chance, on a été entendu. Mais j'ai vraiment eu le sentiment en faisant ça que c'était un acte, que j'ai trouvé courageux, parce que voilà, c'est pas non plus dans ma nature d'être comme ça. Mais surtout, j'étais fier en fait de l'avoir assumé en famille, quoi. Voilà. Après, par rapport aux enfants, etc., je pense qu'on en discute suffisamment pour savoir si on est loin ou pas d'un point qui est vraiment délicat.
Moi, il y a quand même un moment où t'étais, il était en régiment et j'avais 4 enfants de moins de 5 ans, donc la tête dans le guidon. Et en fait, il y avait la programmation annuelle du régiment et en fait, je me suis rendu compte que sur 10 mois, donc de septembre à début septembre à fin juin, il allait être présent à tout casser 2 mois. Et en fait, j'ai quand même eu un flash un jour. Je lui dis, il était au téléphone, il était encore absent. Je lui dis, mais en fait, c'est quoi la vie qu'on a? Ça sert à quoi, en fait? Ça va où? C'est quoi le sens de tout ça? Je veux dire, t'es marié, t'as 4 enfants, et en fait, t'es jamais là. Donc en fait, c'est nul, c'est tout pourri, en fait, ce qu'on est en train de vivre. On construit rien, là, tout de suite, maintenant. Alors, c'est des années qui sont très particulières. Nous, des années comme ça, on a été assez préservés parce qu'on n'en a pas eu énormément par rapport à beaucoup d'autres familles militaires qu'on connaît et qui ont des rythmes vraiment très compliqués. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, oula, faut peut-être... voilà. Et depuis ce jour-là, Alexandre m'a dit, du boulot, j'en aurai toujours. Donc, quand je suis au bureau, au régiment, je pourrai rentrer à 22h tous les soirs parce que j'aurai toujours des trucs à faire. En revanche, je me dis qu'à 19h tous les soirs, je quitte le régiment. Si tout ce qui est fait est bien fait et que le reste peut attendre demain, je pars à 19h. Et depuis ce jour-là, il a tenu... enfin voilà, après, il adapte ses horaires en fonction de là où il travaille, mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir se préserver du temps en famille quand on a une vie comme ça à 1000 à l'heure, parce que je pense qu'on peut vite passer à côté de sa vie de couple et sa vie de famille.
Et c'est certainement une clé de longévité, cette communication, de pouvoir dire ce qu'on ressent quasiment en temps réel, sans rester des mois, des années, en fait, à trouver une situation trop difficile à porter, dans laquelle on n'arrive pas à s'épanouir, où on a l'impression de perdre chaque jour parce qu'ils ne sont pas vraiment vécus, de pouvoir le dire à l'autre, l'exprimer. Alors, bien évidemment, on ne va peut-être pas pouvoir changer la situation comme ça du jour au lendemain. On ne quitte pas l'armée sur un coup de tête. Et puis, en règle générale, on quitte pas son travail sur un coup de tête. Mais de pouvoir le dire et de pouvoir s'adapter. De dire, en fait, aujourd'hui, moi, il y a ça et ça. C'est difficile à vivre pour moi. Voilà ce qui me manque. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'adapter, pour adapter nos contraintes à ce qu'on aimerait, à la façon dont on aimerait vivre. Donc, tout sera peut-être pas réalisable tout de suite, mais au moins déjà d'en parler, de voir les petites choses qu'on peut mettre en place. C'est ce que vous avez fait, toi, Marie-Alix, en exprimant effectivement à Alexandre ce ressenti là que tu avais de vie un peu gâchée, en fait, de temps perdu. Et ben voilà, lui, ça lui a ouvert les yeux. Peut-être que si tu avais pas pu le dire, il s'en serait pas rendu compte. Là encore, se dire que l'autre ne se met pas à notre place et que si on l'exprime pas, ben c'est difficile pour lui de savoir, même si on aimerait que l'autre sache sans qu'on lui dise tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, nos besoins. Mais non, il n'y a pas de miracle là-dessus, ça ne fonctionne pas comme ça, ou vraiment pour très très peu de couples qui sont hyper connectés. Mais quand même, en règle générale, c'est le conseil qu'on peut donner, c'est de pouvoir exprimer à l'autre la façon dont on vit les choses.
Alors, je ne sais pas, mais clairement, le fait d'en avoir discuté, c'était mieux. Après, je pense que... En fait, moi, j'aime bien la notion de devoir et savoir où sont mes devoirs. Quand j'ai pris l'engagement de me marier, bah, j'ai dit, OK, tu es ma femme, et voilà, c'est l'engagement qu'on a pris ensemble, et bah, en fait, je pense que c'est le plus important. Et donc, comment on fait pour que ça se passe bien? Maintenant, notre engagement envers le pays, en tant que militaire, enfin, il peut être, on peut s'engager toujours au profit du pays, mais d'une façon peut-être différente. Et est-ce que tout le monde doit se contraindre autant dans ses horaires pour remplir sa fonction? Moi, je suis pas sûr. Et je pense que souvent, on se cache un peu derrière le travail aussi. On a toujours de bonnes raisons de rester. Mais en vrai, si on pèse tout, peut-être qu'il y a un moment où on se dit, il est quand même temps de rentrer, et puis tout le reste peut attendre. Et en fait, tout le monde sera beaucoup plus heureux comme ça. Mes subordonnés, parce qu'ils verront que je suis plus épanoui. Ma famille, parce que du coup, le travail passera mieux. Et en fait, tout le monde a à y gagner. Mais je pense que... Alors là, c'est un peu aussi un trait que je remarque de plus en plus là quand on est en administration centrale, par exemple à Paris, le célibat géographique est de plus en plus banalisé, et les gens commencent à considérer que c'est normal d'être en célibat géographique, justement pour se préserver des mutations, etc. Mais moi, je pense que c'est un vrai danger. D'abord pour les familles, ça c'est une évidence, parce qu'on vit sur des mondes on vit dans des mondes parallèles, on n'a plus les mêmes soucis, les mêmes préoccupations du quotidien, donc on n'arrive plus à communiquer de la même façon. Et je pense en plus que ça met une pression au travail, parce que quand il y en a un qui est célibataire géographique et qui se dit, moi de toute façon je rentre ce week-end et ce week-end je serai en famille, et du coup pendant toute la semaine il impose des horaires de fou aux autres au boulot. Et ça, c'est pas très agréable. Et même s'il l'impose pas, en fait, ça met une forme de pression que je trouve pas très saine. Et voilà, je pense qu'il faut pas tomber dans ce... Bien évidemment, certains l'assument très bien, et il y en a pour qui ça se passe très bien, et ils y trouvent leur équilibre. Mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus naturel dans un couple.
Merci, merci Alexandre. Je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir le point de vue d'un homme, j'allais dire d'un homme infiltré dans ce milieu. On va arriver sur la fin de cet épisode. Moi, j'aimerais que, est-ce que vous voulez bien nous donner chacun un conseil pour maintenir une vie de couple épanouie? Alors, j'allais dire de manière générale, que l'on soit ou non marié avec un militaire. Mais voilà, le conseil que vous aimeriez donner à ceux qui nous écoutent, ce qu'ils auraient à retenir pour cultiver un amour durable.
Parler. Pour moi, c'est le seul truc à retenir. Enfin, c'est ça, quoi. Il faut se parler, il faut aborder les sujets de fond, ne pas avoir peur de s'exprimer, être à l'écoute de l'autre, se mettre dans une disposition d'écoute bienveillante pour recevoir ce que doit nous dire l'autre. Et je pense que c'est le seul vrai secret de la réussite d'un couple, finalement. Enfin, un des secrets, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, celui-là me semble vraiment capital. Et en particulier pour les couples dont le mari exerce un métier exigeant. Alors les militaires, on n'a pas l'apanage des métiers difficiles. Hein. Il y en a beaucoup d'autres où l'un des deux conjoints sera très pris et aura beaucoup d'absence. Et il y a encore aussi d'autres formes de pression, hein, la pression du travail peut-être ou des responsabilités. Mais ce qui est essentiel, c'est à chaque fois, c'est d'en parler pour pas que le travail devienne l'élément ou le refuge ou l'excuse qui fait péter un couple.
Ouais, tu dis parler. Moi, c'est pas tant parler que c'est surtout, je trouve, de savoir écouter l'autre. En fait, c'est encore plus important que de s'exprimer, je trouve, parce que souvent on est trop pris, on n'est pas dispo, on n'est pas machin, et juste savoir accueillir ce que dit l'autre sans jugement, sans critique, sans rien, juste ok, tu me dis comment tu es, comment tu te sens, ça va pas, t'es pas heureux, etc. Mais voilà, juste entendre ce que dit l'autre. Et que du coup, il y a un vrai échange de je te dis, tu m'écoutes, et après tu me dis, je t'écoute. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a appris assez jeune dans notre couple. Et c'est vrai que c'est quand même, quand on parle de communication de couple, il y en a parfois qui disent, oui, mais moi je lui dis les trucs. Oui, mais tu lui dis, mais est-ce que l'autre il t'écoute? En fait, pas forcément. Donc, faut apprendre aussi à écouter l'autre, et c'est peut-être le plus difficile, je trouve. Et du coup, découle aussi autre chose qui pour moi est important et qui peut être une clé, c'est que on a des vies qui sont aujourd'hui à 1000 à l'heure, bien souvent. Les enfants, le boulot de l'un, le boulot de l'autre, la maison, le truc, le machin. Et en fait, pour pouvoir avoir ce temps de qualité d'écoute et d'échange, il faut se prendre du temps qu'en couple. Et nous, c'est un truc qu'on applique depuis qu'on est mariés, c'est que au moins une fois par an, on part 2 jours en amoureux. C'est non négociable et c'est un minimum. Alors parfois, c'est compliqué. Nous, on a des amis qui nous disent « Ouais, t'as de la chance de faire ça, moi, je peux pas. » En fait, c'est peut-être un peu dur, un peu radical ce que je dis, mais en fait, on peut toujours. Il y a toujours la grand-mère, la tante, la copine, la babysitter. Enfin, je veux dire, il y a 365 jours dans l'année, je pense qu'on peut se trouver 36 heures sans enfant. Enfin, je pense. Et pour moi, c'est important. Et j'adore ça.
J'ai un regret, Sophie, qu'il y a un autre truc, si tu m'en autorises un deuxième. Je pense que c'est important d'avoir un projet commun. Avoir un projet commun, je trouve que c'est une super façon de voir vers l'avenir et de voir l'avenir en un peu plus beau.
Un projet ou plein de projets qui se succèdent.
Voilà, mais en tout cas, avoir quelque chose qu'on va construire ensemble ou qui nous motive tous les deux. Ça peut être un voyage, ça peut être l'achat d'une maison. Nous, ça a été notre cas. Ça a été... je sais pas, l'arrivée d'un enfant ou quelque chose, voilà. Mais le fait d'avoir un projet commun, je trouve ça hyper consolidant pour le couple.
Unifiant.
Ok, ça, on coupera.
Ouais, on coupera ou pas. T'as bien été rattrapé par Marie-Alix, donc tout va bien. Allez, une dernière petite question qui est très Save You Love Date, que moi j'aime beaucoup, que mes amoureux se posent. Comment est-ce que vous vous imaginez tous les deux dans 10 ans?
Dans 10 ans, notre aîné aura
26 ans.
Peut-être qu'on sera tout juste grands-parents.
On sera beaux parents. Alors,
rien que d'y penser, ça m'arrache une larme. Hein. Et j'aimerais à ce moment-là être. Je nous vois dans une grande maison en province avec tous nos enfants autour d'un bon repas, avec les enfants qui ont grandi déjà et du coup avec lesquels on peut boire du vin et partager un bon repas avec tout ce qui fait le sel de la vie aussi. Et ouais, c'est un peu ça.
Ouais, c'est marrant parce que c'est une question qui est compliquée, qui est essentielle en même temps qui est compliquée parce qu'on a justement une vie où on peut pas trop se projeter finalement parce qu'en fait, il y a du mouvement tous les deux ans et que même là, on déménage dans 7 mois, on sait même pas où on va, donc c'est compliqué. Mais du coup, dans 10 ans, on oublie le côté professionnel et c'est là que revient l'essentiel, à savoir effectivement nos enfants. Oui, dans n'importe quel endroit, ce sera effectivement un bon moment en famille avec tous nos enfants, éventuellement les valeurs ajoutées ou pièces rapportées, on appellera ça comme on voudra, mais de nos garçons, de nos filles, etc. Et surtout, nous, c'est un de nos objectifs, c'est qu'on se dira qu'on aura un peu réussi si dans 10, 15, 20 ans, nos enfants sont toujours super unis en fratrie avec les aléas de la vie, les études, les déménagements, les machins, et puis les conjoints qui vont arriver, quoi. Mais ouais, si jamais la famille peut continuer à s'agrandir et qu'on reste tous unis et dans l'amour des uns des autres, ce serait notre plus beau cadeau, je pense.
Et est-ce que vous aspirez à une vie davantage sédentaire?
On est un peu piqué en fait. On est quand même, par rapport à la sédentarité de nos futures années, on est quand même un petit peu piqué par la mobilité malgré tout, et par surtout, c'est pas tant la mobilité que l'aventure et la découverte d'autres choses. Et on a malgré tout quand même être un petit peu bousculé dans notre quotidien, mais peut-être à fréquence un peu moins soutenue que celle qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si on bouge tous les 5 ans, ce sera très bien.
Après, la sédentarité, pour moi, l'énorme avantage qu'il y a, le premier, c'est que on a le temps du coup de s'engager dans la vie autour de soi, la vie associative,
de creuser les amitiés,
d'être présent et d'avoir une vraie vie qu'on développe comme ça. Et je pense que tant que les enfants, moi j'aimerais que les enfants puissent être un peu plus sédentaires pendant leurs années de lycée, collège-lycée, et puis après, une fois qu'ils seront partis, si on rebouge, ce sera très bien. Et comme ça, ça m'irait bien.
Mille merci, en tout cas à tous les deux, d'avoir pris le temps de venir comme ça témoigner de ce qu'a pu être et de ce qu'est aujourd'hui votre vie dans ce contexte un peu particulier. C'est vrai que c'est un sujet en ce moment qui me tient à cœur, notamment avec la sortie du nouveau rendez-vous Save Your Mission Date, voilà que j'ai conçu pour aider en fait les couples à bien préparer les départs en mission et les retours de mission. Bon là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de mutation, de déménagement. Là, ce rendez-vous-là est plus ciblé sur les départs et les retours de mission. Voilà, je trouve que c'est des moments dans le couple qu'il faut vraiment soigner. On s'en rend peut-être pas parfois suffisamment compte et puis on est beaucoup pris dans tout ce qui est un peu matériel de ces départs et aussi de ces retours. Mais savoir se poser pour se dire les choses, pour se dire comment on vit les choses, comment on les ressent, comment on les appréhende, d'un côté comme de l'autre, qui est une vraie communication sur le sujet. On l'a dit plusieurs fois dans nos échanges que la communication était une clé. Et donc voilà, moi j'ai à cœur de créer des outils pour ça, pour aider. Et comme c'était une situation qu'on a connue beaucoup aussi avec Arnaud, on avait envie tous les deux de mettre à profit ce que nous, on a pu mettre en place pour gérer au mieux ces périodes-là. Donc voilà pourquoi c'est le deuxième épisode qu'on fait sur ce thème. Et merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Alors on peut dire que s'il y a des auditeurs de Cœur du Couple qui veulent venir suivre vos péripéties, vos futurs déménagements, vos futures mutations, qui veulent venir voyager avec vous, ils peuvent vous retrouver sur ton compte Instagram qui s'appelle Famille Janson. Je remettrai ça dans les notes de l'épisode.
Merci à toi, Sosnick, et puis merci pour ce que tu fais avec Syl, c'est vraiment super.
Merci beaucoup Alexandre, c'est toujours très touchant d'avoir des remerciements de couples qui ont vécu, qui ont pratiqué Save Your Love Date. Merci à tous pour votre écoute toujours plus nombreuse, et ça aussi c'est très touchant. Et puis je vous donne rendez-vous avec Marie-Lise très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple.
Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.